Le texte en bleu clair ou en bleu clair gras peut être cliqué pour obtenir un appui dans les écritures ou des détails dans les écrits. Lorsque vous avez cliqué vers la Bible en ligne, vous pouvez changer et mettre à jour pour afficher la version de la Bible que vous préférez. Nous avons souvent entendu dire que cette vie est une question de libre arbitre, que chacun a ses propres choix, et pour que Dieu ne viole pas le libre arbitre, il ne peut pas intervenir, que Dieu ne veut pas que nous fassions de mauvais choix qui nuisent à notre prochain ou à nous-mêmes, mais qu'avec le libre arbitre, de mauvais choix sont faits. D'accord, cela a du sens jusqu'ici, mais, en dehors de la valeur intrinsèque de la liberté, pourquoi devons-nous tous fonctionner sous le régime du libre arbitre? Alors que je priais désespérément le Seigneur de faire quelque chose pour réveiller les millions de personnes qui n'ont pas la moindre idée de ce qui est attendu d'elles, je l'ai entendu me dire « Je pourrais arrêter les deux tiers de la population mondiale nette à tout moment quand je le veux ». Ce qui m'a laissé à me demander « Pourquoi ne le fait-il pas ?» Ce n'est que quelques années plus tard que j'ai compris. C'est le jardin du Seigneur. Il fait croître des fils de Dieu pour des fonctions qui incluent le jugement des anges. Les fils issus de la terre sont les prémices. Les prémices sont ceux qui trouvent l'union totale avec Dieu tout en étant sur la terre, dans cette vie, des hommes et des femmes destinés à devenir fils de Dieu. Nous ne savons pas vraiment ce que fera un fils de Dieu après avoir quitté cette planète, mais nous savons qu'ils seront rois et prêtres, donc constamment dans la sainte présence de Dieu. Et nous pouvons supposer que Dieu veut des fils éprouvés et dignes de confiance, des fils lassés de la pâtée des cochons que ce monde offre, des fils qui ont appris l'amertume de la convoitise, de l'égoïsme, de l'orgueil et de la fausse liberté, pour n'y être plus jamais tentés, des fils qui seront probablement investis de pouvoir, et dont l'abus apporterait une grande souffrance à beaucoup, sinon à des milliards, et des fils qui sont l'incarnation de Dieu lui-même, l'amour. L'Écriture nous dit que chercher Dieu, le trouver et être uni à lui est l'unique et seul but de la vie. Dieu a fait d'un seul sang toutes les nations des hommes, pour qu'elles habitent sur toute la face de la terre, et il a fixé les temps qui leur étaient assignés et les limites de leur demeure, afin qu'ils cherchent le Seigneur et que, peut-être, ils le sentent et le trouvent, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en vous tous. Nous le trouvons lorsque la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ apparaît dans nos cœurs, et lorsqu'il sera révélé, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Et tout homme qui a cette espérance en lui se purifie, comme lui Jésus est pur. Quand il apparaît, sa sainte lumière pure brûle tout ce qui est impur, ne laissant que la sainteté, ne laissant que l'amour. Donc, puisque le but de cette vie est de trouver Dieu, et que cela aboutit à l'amour, le but de cette vie est de créer l'amour. L'amour crée l'amour. L'amour aime l'amour. De même que nous, humains, aimons des enfants obéissants et reconnaissants, de même le Seigneur aime des enfants libres de la convoitise et pleins d'amour, des enfants avec qui il peut partager son être même, donnant pour toute l'éternité. Ces enfants peuvent alors plaire à leur Père pour toujours, à mesure qu'ils grandissent sans fin dans son conseil et sa direction infinie, plaire à leur nouveau Père devient alors la joie des enfants. Une définition de l'amour que j'aime, venant d'une religion orientale, est donnée sans aucune attente de retour. Paul nous donne une magnifique définition de l'amour. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. L'amour ne périt jamais. Mais les prophéties, elles prendront fin et les langues, elles cesseront, la connaissance, elle disparaîtra. Et maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. 1 Cor 13:4-13 extrait des Maximes de William Penn. Si nous croyons à un jugement final, ou si nous prenions suffisamment au sérieux ce que nous croyons, nous laisserions plus d'amour dans la religion que nous ne le faisons, puisque la religion elle-même n'est rien d'autre que l'amour de Dieu et de l'homme. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, dit le disciple bien-aimé, et assurément un homme ne peut vivre nulle part mieux. Les langues cesseront, la prophétie prendra fin, la foi sera consommée en vision, et l'espérance en jouissance, mais l'amour demeure. L'amour est en vérité le ciel sur la terre, car le ciel d'en haut ne serait pas le ciel sans lui. Car là où il n'y a pas d'amour, il y a la crainte, mais l'amour parfait bannit la crainte. Et pourtant nous craignons naturellement le plus d'offenser ce que nous aimons le plus. Ce que nous aimons, nous l'écouterons, ce que nous aimons, nous lui ferons confiance, et ce que nous aimons, nous le servirons, oui, et nous souffrirons aussi pour lui. Si vous m'aimez, dit notre bienheureux Rédempteur, vous obéirez à mes commandements. Pourquoi ? Alors il nous aimera, alors nous serons ses amis, alors il nous enverra le Consolateur, alors tout ce que nous demanderons, nous le recevrons, et alors là où il est, nous y serons aussi, et cela pour toujours. Voyez les fruits de l'amour, la puissance, la vertu, le bénéfice et la beauté de l'amour. L'amour est au-dessus de tout, et quand il régnera en nous tous, nous serons tous aimables, et nous aimerons Dieu et nous serons un les uns avec les autres. L'amour est un acte volontaire, il ne peut pas être ordonné ni imposé. L'amour ne peut pas grandir sous la contrainte. Il doit y avoir une liberté totale de choisir ce qui est bon, liberté totale de chercher Dieu, liberté totale de cesser de se servir soi-même et de servir les autres, liberté totale de faire des erreurs et d'en tirer des leçons, liberté totale de chercher à comprendre le Créateur, liberté totale de se détourner de ce qui entrave votre croissance dans l'amour, liberté totale de choisir d'aimer Dieu, liberté totale de choisir de sacrifier votre vie pour plaire à Dieu, liberté. À mesure que nous cherchons Dieu, il nous montre les péchés dans nos cœurs. Aimant la vérité, nous nous détournons du mal qu'il nous montre. En fuyant le mal, nous nous portons naturellement vers le bien et vers Dieu. Plus nous apprenons ce qu'est le mal, plus nous apprécions Dieu et sa bonté. En apprenant, nous voyons l'humilité, la pureté, la bonté, la miséricorde et la sagesse de Dieu. Nous sommes naturellement attirés par son amour. Il devient notre seul désir. Une fois que l'amour est choisi cherchant sa propre source et sa destination, il doit alors être éprouvé sous pression pour voir à quel point ce choix est certain. Car n'est-ce qu'une flirtation ou est-ce un engagement? Le choix peut-il être affermi, peut-il devenir irréversible ou peut-il revenir à l'égoïsme? Ainsi, pour en être sûr, celui qui choisit est étiré et exercé pour devenir plus fort, plus sûr, plus pur. Comme l'or que l'on chauffe, dont on enlève les scories, que l'on réchauffe, dont on enlève les scories, jusqu'à ce qu'il soit pur. Le choix est tellement éprouvé que tout ce qui n'est pas l'amour devient écœurant, et même menacé et forcé de souffrir, il choisirait la mort plutôt que de trahir l'amour et de retourner au service de soi, au mal. Car à mesure que vous apprenez les voies de l'amour et de Dieu, vous apprenez à haïr la vie des passions, de l'orgueil et des plaisirs, car perdre sa vie, c'est la sauver. Le mal devient répugnant, à éviter, à fuir, car ce n'est qu'alors que la création miraculeuse de l'amour peut être achevée et assurée. Créer l'amour est l'acte ultime de création, c'est la chose la plus difficile à créer. C'est le jardin d'amour de Dieu, et il y a beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas destinées, par leur choix astérisque à être des prémices, mais ces autres personnes ne doivent pas être forcées, ni corrigées, ni restreintes, de peur de contraindre ou d'abîmer les tendres plantes de l'amour, les prémices. Les autres personnes apprennent aussi de leur vie dans le jardin, dans la vie suivante, leur vie leur rappelleront ce qui est vraiment important, l'apprentissage et l'amour, amour vs convoitise, péché vs justice, trouble vs paix, humilité vs orgueil, bien vs mal, lumière vs ténèbres, amé vs doux. Nous devons quitter la terre sage, sinon nous devrons apprendre le péché et la justice dans la vie suivante. Notre vie terrestre est une école dont le Seigneur se sert pour nous illustrer ses enseignements sur la justice et le péché. Nous apprenons ici par le Saint-Esprit, qui est prêt à nous enseigner toutes choses, prêt à nous conduire dans toute la vérité, afin que nous devenions sages avant de quitter la terre, ou bien, dans la vie suivante, nous devrons apprendre à la dure, avec bien moins de récompenses pour nos efforts, voir « is the up for all » pour plus, le choix de l'endroit où apprendre appartient à chacun. Dieu est en nous, désireux d'enseigner toutes choses, si nous voulons nous taire, écouter et obéir, mais finalement l'Écriture s'accomplira, ils seront tous enseignés par Dieu. Astérisque ceux qui plaident pour la prédestination et qui nient le libre arbitre de l'homme rendent Dieu très injuste, car si Dieu prédestine certains au ciel et d'autres à l'enfer, alors ceux qui vont en enfer y sont à cause de Dieu seul et non de leur faute. Dieu choisit ceux qui sont attirés vers lui sur la base de ses appels anonymes adressés à tous les hommes à abandonner leur mauvaise voie, et s'ils aiment la vérité, ils se repentent, mais s'ils persistent dans leur mauvaise voie, ils les ignorent. Ils peuvent plus tard décider de le chercher, et s'ils manifestent une repentance sincère pour leur mauvaise voie passée, il les attirera aussi. Il donne à chaque homme une chance égale de le trouver, il donne à chaque homme dans le monde une petite mesure de son esprit, afin qu'il puisse croire à la vérité de ses appels anonymes à se détourner du mal. Pour des détails supplémentaires à ce sujet, voir l'écrit de George Fox sur « Election and Reprobation Clearly Discovered » et l'ignorance de beaucoup concernant l'élection et la réprobation des personnes, « Manifested ». De la parole du Seigneur au-dedans, tous les hommes sont sans excuse, si je me taisais, ils auraient une excuse. Avant que la terre et l'homme sur la terre existent, il y eut une rébellion dans le ciel menée par Satan, qui emmena des millions d'anges avec lui. Les anges avaient été créés comme des êtres parfaits, mais ils tombèrent dans la tentation trompeuse présentée par Satan, ils n'avaient jamais éprouvé auparavant l'amertume du mal, et ils furent donc trompés. Ma femme eut une vision de ce qui s'est passé ensuite. Jésus se tenait devant Satan. Jésus tendit la main, pleine de poussière, et dit « Vois-tu cette poussière, Satan, je vais rendre cette poussière plus grande que toi, et tu ne peux rien y faire. La poussière, c'est nous, il a formé l'homme de la poussière de la terre. » Parce que le monde entier est sous la puissance du mal, un homme est exposé au mal lorsqu'il naît sur la terre. Dieu nous appelle tous, ceux qui répondent à son appel sont attirés vers le Seigneur, dont le but est de créer un fils de Dieu. Pour devenir un fils de Dieu, un homme doit d'abord apprendre le mal en lui. Sur la terre, dans cette vie, apprendre le mal consiste à attendre silencieusement le Seigneur afin qu'il sonde le cœur de l'homme et expose, par sa lumière, le péché qui s'y trouve. Tant que l'homme n'a pas vu la profondeur du péché dans son propre cœur, il n'a aucune idée de sa propre dépravation. Et un homme ne peut pas comprendre les choses de Dieu tant qu'elles ne lui sont pas montrées par une révélation de Dieu. À mesure que l'homme apprend le mal en lui, il recule avec dégoût devant ce qu'il est devenu, et il fuit vers ce qui est bon, il est attiré vers le bien, il est attiré vers Dieu. Le Saint-Esprit reprend un homme, convainc un homme de la justice de Christ et juge un homme, et cet homme, s'il se rope avec tristesse de son état mis à nu, voit le péché ôté de son cœur par l'Esprit de grâce, un péché à la fois. L'engagement de l'homme envers la piété est aussi sévèrement éprouvé dans la tribulation. Ceux qui se repentent de leur mal et endurent l'épreuve deviennent des fils de Dieu, pour jouir de la paix, d'une joie indicible et de la justice. Ils savent que le moindre acte d'égoïsme de leur part entraîne un retour à une vie coupée de la paix et de la joie de Dieu, et que c'est une misère infernale qu'ils ne souhaitent pas revivre. Ainsi, un fils de Dieu est créé pour être un vase de confiance, à l'abri de toute tentation, sanctifié et perfectionné pour toujours. Des fils irréprochables qui lui obéissent dans l'amour reçoivent alors en don une grandeur, une puissance et une gloire incorruptibles. Le monde, qui existe pour produire des saints, accomplit son but, ainsi la sagesse est justifiée par ses enfants, Luc 7, 35. Ceux qui ne quittent pas cette terre sage, n'ayant pas appris à haïr passionnément le mal pendant leur vie terrestre, y compris le mal en eux-mêmes, apprendront à la dure, dans la vie suivante avec bien moins de récompenses, mais tous seront enseignés par Dieu. Chacun sera enseigné par Dieu, et chacun sera salé de feu. La mort de notre esprit mauvais par le feu en chacun est nécessaire pour que tous puissent vivre ensemble dans la paix, l'amour, la bonté et la douceur. Tous doivent être purgés du mal dans leur cœur. Cela se produit sur la terre pour les quelques-uns qui sont volontairement crucifiés sur la croix intérieure, avec grande récompense. Pour la grande majorité de l'humanité, cette purification a lieu involontairement dans la vie suivante. Tous les hommes apprendront à haïr le mal, seront attirés vers la bonté et aimeront la bonté, qui est Dieu. Tous les hommes sont alors soumis à la direction de Dieu, Jésus étant le véritable Seigneur de tous les hommes. Notre vie sur terre est une école du mal, où soit nous apprenons volontairement à haïr le mal dans cette vie, soit, dans la vie suivante, nous éprouvons toutes les blessures et tous les torts que nous avons causés par nos actes et nos paroles mauvais pendant notre vie sur terre, étant ainsi dégoûtés de notre passé et devenant pleinement résolus à ne jamais répéter ces erreurs. Nous apprenons, par nos erreurs commises sur terre, quand une tendre plante d'amour, prémisse, a mûri sur la terre, alors les anges chantent et avec Christ viennent la récolter, car elle est en effet précieuse. Si précieuse, si précieuse en valeur, si importante pour l'avancement de la création, que toute la création, toute la nature attend avec impatience et désire ardemment que ces tendres plantes d'amour, les fils de Dieu, soient révélées. Tout se tient, n'est-ce pas, seulement quelques plantes d'amour au milieu de bien d'autres. Quand une plante d'amour mûrit, elle est alors récoltée, et non des milliers d'années plus tard, et les plantes d'amour sont très peu nombreuses, le chemin étroit et resserré que peu trouveront. Ces fils de Dieu adoptés, élevés dans le jardin de la terre, sont essentiels à l'expansion de la création. Ils sont les pivots de l'avenir, un avenir où l'accroissement du royaume et du gouvernement de Christ est sans fin, infini pour toujours, Ésaïe 9, 7. Ils doivent être des rois dans l'expansion infinie du royaume des cieux et de son gouvernement, mais les rois au ciel sont des serviteurs comme Christ, non des dirigeants comme nous les connaissons sur la terre. Puisque cette expansion de son gouvernement se poursuit pour toujours, qu'est-ce que cela vous dit du rôle de la terre dans l'avenir? Rappelez-vous, il a dit qu'il pourrait arrêter les deux tiers de la population mondiale nette, à tout moment, quand il le voudrait. Le prix à payer pour faire croître l'amour est l'absence totale de force et de contrainte de la part de Dieu. Cette absence totale de contrôle de la part de Dieu entraîne souffrance, maladie, guerre, famine, etc. Chaque personne sur la planète peut choisir entre le bien et le mal, et apprendre ainsi. La liberté de faire de mauvais choix existe afin que l'amour puisse être créé et grandir dans une liberté totale, le terreau nécessaire à sa nourriture. De la parole du Seigneur au-dedans, si les gens veulent prendre une mauvaise décision, c'est leur prérogative. Chaque homme et chaque femme a son jour de visitation où l'Esprit de Dieu, de façon anonyme, résonne avec eux pour qu'ils changent de conduite. La grande majorité des hommes ne comprennent pas que ce raisonnement anonyme vient de Dieu, et ainsi, s'ils n'aiment pas la vérité de ce qui leur a été montré par la lumière de Dieu en chaque homme, ils rejettent la vérité, aimant leur voie mauvaise, et en effet haïssant la vérité, ce qui revient à haïr Christ qui est la vérité. les quelques-uns qui se sentent convaincus lorsqu'on leur montre leur mauvaise voie, qui reconnaissent la vérité de ce qui leur a été dit, et qui décident de changer leur vie en conséquence à cause de leur amour pour la vérité, ces quelques hommes et femmes sont alors choisis par Dieu pour recevoir une expérience spirituelle qui leur donne un avant-goût de la bonté de Dieu, donnée pour les motiver à chercher celui qui était caché afin qu'il soit révélé. Si nous tenons compte du conseil de l'Esprit ou de la lumière en nous, nous recevons plus de direction. Si nous ignorons le conseil, Dieu nous ignore jusqu'à ce que nous décidions de rechercher son conseil et sa direction. Sachant ceux qui n'abandonneront jamais jusqu'à ce que l'union ait lieu, Dieu les choisit pour être ses prémices, il les attire à lui, mais d'une manière sans peur ni contrainte, afin qu'ils puissent choisir de le chercher par amour. Le Père ne cherche pas à nous effrayer pour nous pousser à chercher, au contraire, il nous attire par l'amour, de la parole du Seigneur au-dedans, on ne peut pas venir par la peur, il faut venir par l'amour. Par l'amour, le Père nous attire à lui et crée en nous une faim de davantage. Seul l'amour de Dieu et de la vérité peut motiver un homme à se renier lui-même et à donner sa vie dans l'obéissance. La prédication sur le feu de l'enfer et la damnation, qui cherche à effrayer les gens pour les faire entrer dans des sectes, est une abomination et ne produit pas le salut. Chercher Dieu et le trouver, le voir au-dedans est le but même de la vie. Dieu a fait d'un seul sang toutes les nations des hommes, pour qu'elles habitent sur toute la face de la terre, et il a fixé les temps qui leur étaient assignés et les limites de leur demeure, afin qu'ils cherchent le Seigneur et que, peut-être, ils le sentent et le trouvent, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en vous tous. Cherchez l'Éternel votre Dieu, et vous le trouverez si vous le cherchez de tout votre cœur et de toute votre âme. 2 Corinthiens 4:29 Ce que Dieu a choisi sont protégés par lui pendant qu'ils achèvent leur parcours de recherche. Comme il est écrit, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ou, comme certains le soutiennent, que Dieu aime, et qui sont appelés selon son dessein. Alors comment aime-t-on Dieu ?» Aimer Dieu, c'est l'attendre comme la priorité la plus élevée de notre vie, et obéir aux paroles prononcées que nous entendons de lui et qui nous commandent d'agir. Nous l'attendons pour entendre ces paroles qui nous enseignent, nous convainquent, nous encouragent, nous transforment et nous guident. C'est cela aimer Dieu, lui qui protège ceux qui l'attendent. Il y a plusieurs années, ma femme et moi avons fait l'expérience de cette protection contre la mort. Nous rentrions à pied traversant une rue. Soudain, il y eut un grand rugissement, une voiture dont le conducteur était ivre, un panneau stop tout proche, fit crisser les pneus à pleine accélération et tourna à gauche en direction de nous. Nous avons vu le danger et avons couru pour nous écarter. Devant ma femme, à la toute dernière fraction de seconde, je me suis jeté en avant aussi loin que possible, et la voiture s'est arrêtée soudainement. Mes jambes et mes hanches étaient en contact avec l'aile avant gauche de la voiture, et la jambe gauche de ma femme était en contact avec le pare-chocs avant de la voiture. Le conducteur était si ivre qu'il pouvait à peine parler. Plus tard, le Seigneur me dit, « J'ai dû me précipiter dans la rue pour te sauver. » Pour son intervention, qui nous a sauvé la vie, nous lui sommes éternellement reconnaissants et confiants dans sa protection, pourvu que nous continuions à le chercher comme notre priorité la plus élevée. La façon dont nous passons notre temps libre montre notre priorité. Mais il n'accorde sa protection qu'à ceux qui le recherchent comme la priorité la plus élevée de leur vie, l'attendant et lui obéissant, de la parole du Seigneur au-dedans. Tous les autres, destinés à la réconciliation après cette vie, vivent sans protection et sont donc exposés à la mort accidentelle, aux maladies, aux famines, aux guerres, etc. Un jour, alors que je méditais sur la volonté de Dieu pour les gens de cette terre, j'ai commencé à penser aux 6 millions de Juifs mis à mort par les nazis, me demandant comment cela pouvait être. Je l'ai entendu me dire, « N'ose jamais m'attribuer l'Holocauste. » J'écoute aussi avec une grande tristesse quand un prédicateur dit à l'un de ses fidèles, vivant dans un faux espoir qui vient de perdre tragiquement un enfant, « C'est la volonté de Dieu, il les voulait auprès de lui. Ce n'est pas la volonté de Dieu que de telles tragédies arrivent. Les tragédies sont le résultat du libre arbitre du monde et ne sont pas voulues par Dieu. » Toute vie est précieuse pour lui, et les tragédies sont aussi une tristesse pour lui, mais c'est le prix du libre arbitre de l'homme, nécessaire pour faire croître l'amour. Astérisque les gens ne sont pas destinés par Dieu, il voudrait que tous les hommes soient sauvés et unis à lui alors qu'ils sont encore en vie sur la terre. Les gens sont destinés par les choix qu'ils font. Dieu supplie anonymement tous les hommes de se détourner du mal, mais les hommes, aimant leurs passions et plaisirs mauvais, minimistes et ignorent ses supplications, ils nient et haïssent la vérité que la lumière leur montre, ainsi ils haïssent Christ, qui est la vérité, et aiment l'injustice. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Jean 1:4-5. Quand les hommes meurent et sont jugés, ces paroles de raisonnement anonyme de la lumière de Christ, qu'ils ont ignorées, seront rappelées. Les hommes seront jugés par ces paroles qu'ils ont entendues et rejetées, Jean 12, 47-48, et ils auront profondément honte d'avoir ignoré les douze supplications de leur Créateur aimant. Ne pensez pas qu'en annonçant l'Évangile aux autres, eux aussi seront protégés. C'est le Seigneur qui appelle. Tant que vous n'avez pas été envoyé avec des ordres précis quant à ce qu'il faut faire, quand le faire, et les mots à dire, vous ne ferez que disperser, et non rassembler. Ne supposez pas que le Seigneur dort au poste. De la parole du Seigneur au-dedans, que personne ne pense que nous ne voyons et n'entendons pas tout. La souffrance collective de l'humanité au cours de l'histoire est un prix énorme, un prix colossal, un prix incommensurable. Il doit être compensé par cette chose qu'il est en train de créer, infiniment au-delà de l'imagination de quiconque quant à sa responsabilité, son autorité et sa puissance. Ces plantes d'amour doivent être des frères de Christ, en qui habite toute la plénitude de Dieu. Ont-ils aussi toute la plénitude de Dieu habitant en eux? Cela doit s'en approcher, autrement le prix payé pour le libre arbitre de l'homme est trop élevé pour pouvoir être équilibré. Ne vous méprenez pas, je frémis de peur à l'idée de recevoir une fraction d'une telle autorité. Je ne mentionne cette possibilité que pour essayer de vous aider à comprendre le prix horrible, mais nécessaire, du libre arbitre. Je sers Dieu pour une seule raison et une seule, pour l'entendre me dire un jour, « C'est bien bon et fidèle serviteur. Je vis pour cette espérance. » Il est aussi dit que le but de la vie est de créer le corps de Christ, afin que, par l'Église, la sagesse multiforme aux multiples aspects et variés de Dieu soit connue des principautés et des puissances dans les lieux célestes. F3 10. Ainsi Dieu crée des clones de Jésus, avec des expériences différentes conservées dans leur âme, afin de refléter une facette différente de la personnalité de Dieu, une facette différente de la sagesse de Dieu, pour sa gloire. Trouver Dieu est une expérience individuelle qui exige la pureté et la mort de la nature égoïste en nous. La purification par la croix du Christ est difficile. Elle implique souffrance et tribulation. La souffrance est nécessaire pour dépouiller l'homme de chair, avant que l'Esprit de Christ puisse le remplacer. Cette croix du renoncement à soi est portée comme un sacrifice de nos vies, le seul don que nous soyons capables de faire à Dieu, la vie qu'il nous a donnée à vivre comme bon nous semble, pour la lui rendre, afin de vivre selon sa volonté. À mesure que Dieu nous purifie pour nous débarrasser de notre esprit égoïste, nous prenons de nombreuses petites décisions de repentance. Chaque pas qui nous éloigne du monde renforce notre résolution de ne jamais y retourner, jusqu'à ce que le monde et toutes ses pratiques égoïstes, cupides, coléreuses et lubriques deviennent répugnantes à nos yeux. Et le prix que nous payons en souffrance crée une résolution de ne jamais nous écarter de ses voies. Nous devenons un vase éprouvé, digne de confiance et débarrassé du péché. En revanche, si nous mourions et étions purifiés instantanément, à moins que notre libre arbitre ne soit supprimé, nous retournerions aussitôt à des pratiques égoïstes, nos anciennes addictions nous manqueraient, qui sont le vieux vin, et nous n'apprécierions pas le vin nouveau. Si un pécheur n'avait pas d'abord ses péchés lentement purgés de son cœur, tout en apprenant à haïr tout mal, même si ce pécheur était transporté au ciel, il ne serait pas heureux, parce qu'il ne pourrait pas poursuivre ses anciennes addictions. Si vous mouriez tout en péchant encore, vous seriez absolument malheureux au ciel. Tous vos plaisirs et désirs, n'ayant pas été crucifiés sur la terre, ne sont pas disponibles au ciel, et vous seriez misérable sans eux. Vous languiriez après le vieux vin, que vous pensez meilleur que le vin nouveau parce que vous n'avez pas été préparé, crucifié, purifié, l'outre nouvelle et libéré des convoitises, de la colère, des désirs sexuels, du ressentiment, de l'envie, de la cupidité, du mensonge, de la jalousie, de la folie, des débauches, de l'ivrognerie, des plaisirs, etc. Même vos pensées seraient entendues par tous autour de vous, vous seriez terrifié et voudriez courir vers les ténèbres où vous espérez que vos pensées ne seront pas entendues par tous. Jésus nous a dit la même chose dans la parabole, « Personne, après avoir bu du vieux vin, ne désire aussitôt du vin nouveau, car il dira, le vieux est meilleur. » Luc 5, 39. Un homme doit crucifier ses convoitises et ses affections sur la croix intérieure du renoncement à soi avant de pouvoir jouir de la communion dans les cieux. Le monde existe pour produire des saints, le monde n'est que le canal de naissance vers la prochaine vie éternelle. La vie, relatée dans l'Ancien Testament, avant que Jésus n'ouvre à quiconque croit en son nom l'accès au royaume, a servi à créer une allégorie indélébile de l'expérience de purification de l'individu pour référence, repère, compréhension, avertissement et encouragement. Au lieu de la pureté d'un individu, c'était la pureté de son peuple choisi, ils étaient punis lorsqu'ils n'obéissaient pas, et on leur disait de détruire toute autre race dans leur pays. Les tribus de Canaan détruites par les enfants d'Israël, avec Dieu et les anges combattant à leur côté, sont une allégorie de nos ennemis spirituels dans notre cœur. convoitise, cupidité, avidité, mensonge, colère, haine, immoralité, etc. Les rois que Josué a détruits sont l'allégorie des éléments de nos propres esprits dominants qui doivent être détruits. En tant qu'individus, nous sommes disciplinés, flagellés et châtiés par Dieu dans notre purification, Hébreux 6-8. Mais tout cela pour notre bien, afin que nous puissions être débarrassés de nos natures pécheresses et participer à la nature divine. Nous laissons le monde derrière nous, l'Égypte, le Seigneur nous ouvrant un passage à travers ce qui paraît impossible, l'ouverture de la mer Rouge, pour entrer dans la tente silencieuse du Seigneur, dans une sécheresse spirituelle et l'errance dans le désert du Sinaï, où nous nous plaignons et doutons, péchant contre Dieu, où Dieu nous afflige par la tribulation serpent mordant. Où nous devons contempler la souffrance de Jésus sur la croix pour survivre, regarder le serpent flamboyant sur une perche, où nous doutons de pouvoir jamais triompher de nos énormes problèmes d'ego, les géants du pays promis semblaient invincibles, où notre ancien moi meurt, ne restant que la nouvelle créature qui hérite du royaume, ce que la chair et le sang ne peuvent pas faire, les Juifs d'origine moururent ou ne furent pas autorisés à passer, même Moïse, seuls Caleb et Josué entrèrent parce qu'ils n'avaient pas peur des géants. Où Christ nous lave d'une eau sainte, dedans et dehors, nous traversons le Jourdain, et où il nous purge par le feu, et asperge notre conscience de son sang. Christ met à mort notre orgueil, notre avidité, notre colère, nos convoitises et l'esprit résiduel de Satan en nous, par l'éclat de son avènement, le tuant par son souffle, écrasant Satan sous nos pieds, comme les ennemis des Israélites tombèrent devant eux comme Jéricho, dont les murs s'écroulèrent et furent tués. De même que le petit David tua Goliath par la foi en l'aide de Dieu, ainsi dans notre faiblesse nous abattons le géant de notre péché par la foi dans le véritable évangile de Christ. Moïse conduisit les Juifs extérieurs vers le Canaan extérieur, et ils devaient conquérir et chasser les sept nations devant eux avec des armes et des armures charnelles et extérieures. Mais Christ conduit ses Juifs en esprit, dans sa nouvelle alliance vers le ciel, et ils doivent vaincre la méchanceté spirituelle et les dominations des ténèbres, par Christ, avec des armes et une armure spirituelle. De même que les enfants d'Israël tuèrent les nombreux géants en Canaan par la foi dans les promesses de Dieu, ainsi nous obtenons un cœur pur par la foi, dans l'obéissance à ses commandements prononcés à notre intention. Quand nous avons vaincu nos ennemis d'orgueil, de convoitise, d'avidité, de mensonge, de profanation, etc. Nous nous asseyons, en Christ, pour entrer dans le repos, comme les Israélites entrèrent dans le repos lorsqu'ils eurent fini de détruire toutes les autres nations à l'intérieur des frontières d'Israël. Le repos chrétien consiste à cesser d'agir selon vos propres décisions et à ne faire que les œuvres que Dieu vous ordonne de faire et à ne prononcer que les paroles qu'il vous ordonne de prononcer. Ainsi toutes vos paroles et vos actes sont parfaits et servent donc Dieu. Comme Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa, disant, qu'il nous accorderait, étant délivré de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en sainteté et en justice devant lui, tous les jours de notre vie. Luc 1:74-5 Nous arrivons au royaume des cieux, l'Israël spirituel, pur, perfectionné et en union avec Christ et Dieu, la terre promise d'Israël, et nous devons expulser de notre Église tous ceux qui continuent à pratiquer le mensonge, l'avidité, les injures, l'immoralité. Toutes les nations païennes devaient être continuellement purgées d'Israël, l'allégorie se poursuit encore et encore. L'Ancien Testament est une allégorie physique de la Nouvelle Alliance spirituelle. L'Épître aux Hébreux en cite plusieurs, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Quelle que soit la perte que les gens ont subie pour créer cette allégorie indélébile, elle sera compensée par un Dieu parfaitement juste. Et souvenez-vous, Dieu connaît l'avenir. Il sait si un peuple ne fera que s'enfoncer davantage dans le mal. Normalement, il les laisse creuser aussi profond qu'ils le choisissent jusqu'au moment de la mort naturelle. Mais s'il sait qu'ils devront passer par l'enfer après la mort, sans espoir d'être réconciliés avec Dieu pendant leur vie, et si cela sert son dessein plus large, leur mort peut être miséricordieuse. Miséricordieuse parce qu'ils cessent de s'enfoncer davantage dans le gouffre du mal, dont ils devront se sortir dans la vie suivante, appelée l'enfer. Voir Is There Hope for All pour les détails. Heureusement, la douleur et la souffrance que les gens éprouvent dans cette vie seront compensées par Dieu dans la vie suivante, cette vie sera comme un rêve lointain, et tous seront consolés. Et tous diront que Dieu est juste, et tous diront que Jésus-Christ est Seigneur. C'est-à-dire leur Seigneur, qu'ils servent. Et ces choses seront dites avec sincérité et honnêteté par tous, car Dieu ne prendrait aucun plaisir à ce que quelqu'un mente sous la force ou la menace de la force. Ces choses seront dites du fond du cœur par tous, à la gloire de Dieu le Père. Il engloutira la mort dans la victoire. Et le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages, et l'opprobre de son peuple, il l'ôtera de toute la terre, car l'Éternel a parlé. Hébreux 25:8 Exposez et produisez votre cause, oui, qu'ils délibèrent ensemble. Qui a annoncé cela dès les temps anciens, qu'il a déclaré dès lors, n'est-ce pas moi, l'Éternel ? et il n'y a point d'autre Dieu que moi, un Dieu juste et un Sauveur, il n'y en a point en dehors de moi. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous, extrémités de la terre, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. J'ai juré par moi-même, la parole est sortie de ma bouche en justice, et elle ne reviendra point, devant moi tout genou fléchira, toute langue jurera. Ils tous diront, en l'Éternel sont la justice et la force. Tous ceux qui étaient irrités contre lui viendront à lui et seront honteux. Ecclus 45, 21-25 Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Phil 2, 10-11 C'est aussi pour cela que nous travaillons et que nous souffrons l'opprobre, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le Sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. 1 Timothée 4, 10 Voir Hope for All pour plus de détails, y compris sur la douleur. Ainsi toute la souffrance et la douleur de la terre seront oubliées et réparées. Et si vous sentez l'attrait de Dieu vous pousser à le chercher, et à continuer à le chercher jusqu'à ce que vous soyez dans ses bras, alors peut-être apprécierez-vous encore davantage la souffrance sur la planète. Elle existe afin que vous puissiez chercher celui qui vous a choisi, à l'abri de toute contrainte, et afin de grandir jusqu'à devenir un Christ parfait, mûr et ressuscité. Cela devrait être une prise de conscience très humiliante, certainement pas une raison de s'enorgueillir, mais plutôt un motif pour vous encourager à porter patiemment la croix afin de produire le fruit de l'Esprit, apportant ainsi joie et gloire à Christ et au Père, devenant la gloire couronnante de leur création l'amour. Quand vous portez, produisez ou faites paraître beaucoup de fruits, mon Père est honoré et glorifié, et vous montrez que vous êtes vraiment mes disciples de vrais disciples. Jean 15 8 Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Si un homme demeure en moi, et moi en lui, il porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Jean 15 5 Le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.